Nous allons reprendre, si vous voulez bien, et nous accueillons aujourd'hui Laurence Plasnet. Laurence Plasnet qui est maître de conférence à l'université Paris IV Sorbonne et qui est spécialiste du XVIIe siècle. Elle avait soutenu une thèse sur l'imitation des romans grecs anciens en France et en Angleterre à l'âge classique. Et depuis, elle a publié de nombreuses éditions, notamment de La Rochefoucauld et de Madame de Lafayette. Et ce qui m'avait incité à l'inviter dans ce séminaire cet été, lorsque je l'organisais, et j'y pensais, c'était non seulement ces travaux universitaires que je viens de citer et qui sont déjà très nombreux et qui sont importants, mais en plus elle a publié deux romans dans les dernières années qui sont des romans où le grand siècle est présent et elle m'en avait envoyé un durant l'été et que j'ai donc lu au mois d'août, et c'est à ce propos que j'ai eu envie de l'inviter. C'est un livre qui a été publié chez Gallimard et qui est intitulé « La blessure et la soif » et qui a lieu dans le cadre de Port-Royal. Et donc, elle a cette double écriture, l'écriture de l'universitaire et l'écriture de la romancière. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé que dans le cadre d'une réflexion sur l'écriture de la vie, qui est celle de notre séminaire cette année, c'était tout à fait approprié. Elle a proposé comme titre « Écrire la vie, une fiction critique ».
Donc je remercie doublement Monsieur le professeur Antoine Compagnon de m'avoir fait l'honneur de venir dialoguer avec vous aujourd'hui, pour la confiance qu'il m'accorde, bien sûr, et pour me donner l'occasion d'exprimer une perplexité qui me tarabuste depuis un moment. Je commencerai par revenir sur ce parcours auquel vous avez fait allusion à l'instant. Il se trouve que, de ma plus petite enfance à mes 25 ans, je n'ai jamais imaginé avoir d'autre vocation que l'écriture. J'en étais si convaincue que, considérant ma médiocrité, j'ai décidé un matin de 1993 de me taire, parce que seul un silence entier pourrait solder une certitude aussi mal placée et absurde. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais normalienne, agrégée, et je suis devenue universitaire. Puis, en 2005, j'ai publié un premier roman, tard, mais surtout à un âge où les connaissances acquises à l'université, la familiarité avec le temps long de l'histoire que les savants pratiquent, le déliment intellectuel acquis grâce à des maîtres exigences, l'expérience de la réflexion critique, m'interdisent une entière naïveté face au champ littéraire. Je confesse pratiquer volontiers l'abstention et être fortement tentée par le retirement face aux disputes contemporaines. J'aime la musique, le silence et les livres. Mais cet amour de la musique, du silence et des livres est aussi ce qui cause mon trouble devant la tyrannie que le syntagme « écrire la vie » exerce aujourd'hui. Car ce n'est partout, parmi les auteurs, les lecteurs, les critiques, qu'un extraordinaire assaut de discours légitimant ou appréciant l'œuvre en fonction de son projet référentiel et même spécifiquement de son authenticité. Sans vouloir faire aucun procès, je n'ai rigoureusement aucun goût pour l'exercice et je suppose par ailleurs que chaque auteur assume ce qu'il publie. J'en donnerai en vrac quelques exemples tirés de la production romanesque parue depuis la fin du mois d'août dernier. L'abondance est telle que je me limite volontairement. Ainsi, le prix Goncourt de l'année a été encensé pour avoir traité du sujet concret de l'immigration africaine. Et on a pu louer La barque silencieuse de Pascal Quignard, recueil de notations variées et de contes, pour sa dimension politique et son athéisme militant. La polémique qui oppose Yannick Enel à Claude Lanzmann et quelques autres est censée porter sur la liberté de la fiction narrative, mais le succès de Jan Karski et l'intérêt qu'il suscite ne tient pas à la fiction qu'il propose ou à la langue de l'auteur. Elle repose tout entière sur l'identité de son protagoniste, un personnage historique. Je descendrai un peu. Frédéric Bechbédé, Justine Lévy, Anne Wiazemski ont triomphé avec des ouvrages que je voyais encore une dame en venant jusqu'au Collège de France lire dans le métro sous mes yeux. Des ouvrages où ils évoquent leur famille, leurs enfants, et des événements réels, ce que ni l'identité de ces auteurs, ni la presse n'a permis aux lecteurs qui auraient souhaité l'ignorer de le faire. Et il en va de même du dernier opus de Franz-Olivier Gisbert. Marie Darrieussecq et Camille Laurence, enfin, publient des ouvrages cet hiver dans lesquels elles reviennent sur leur affrontement de 2007. Camille Laurence, on s'en souvient, avait accusé Marie Darrieussecq d'avoir accompli un plagiat psychique en racontant dans Tom est mort l'histoire d'une femme qui a perdu un enfant sans en avoir fait l'expérience, alors qu'elle-même avait évoqué la perte réelle de son premier enfant dans Philippe. La romancière posait ainsi que l'expérience est fondatrice non seulement d'une légitimité de l'écriture, mais même d'une possible disqualification de la parole fictive. Ce discours paraît d'autant plus stupéfiant que ces deux auteurs, comme tous ceux que j'ai nommés, publient des œuvres qu'ils qualifient de romans, lequel désigne couramment une fiction narrative en prose, c'est-à-dire une œuvre d'imagination. Parallèlement, la consultation des commentaires des lecteurs sur les sites de vente de livres à distance manifeste jusqu'à la nausée la propension à évaluer les œuvres en fonction de leur aptitude à rappeler au lecteur sa vie, son quotidien, et à ne pas l'encombrer davantage, parce qu'elles sont brèves et dépourvues de toute recherche stylistique ou ambition artistique, assimilée en général au fait d'une grossièreté. La tyrannie du présupposé d'authenticité est telle que j'ai entendu récemment un vénérable membre de l'Académie française, dont je me garderai bien de vous donner le nom, confesser sa surprise d'avoir appris que le tableau des 11 évoqué par Pierre Michon dans son roman éponyme n'existait pas, et rire que le livre était donc une farce. Tyrannie qui vaut aussi dans sa confrontation à l'auteur. La moindre rencontre met en présence de lecteurs, parfois simplement potentiels, qui veulent vous raconter leur vie pour que vous en tiriez le chef-d'œuvre que vous n'avez pas encore eu la matière pour écrire, voire qui évoquent le chef-d'œuvre dont ils disposent en puissance et qui les sacrent potentiellement grands écrivains pourvu qu'ils entreprissent de raconter leur existence. Dans l'air du temps, un jeune auteur soutenait du reste que les salons du livre ne devaient pas avoir pour vocation de permettre à des lecteurs de rencontrer un auteur apprécié, mais consistait en séances au cours desquelles les lecteurs viendraient parler d'eux-mêmes aux auteurs de leur choix pour leur transmettre, je cite, « leur vécu », les investissant d'une fonction qui n'oscille même pas entre celle du prêtre ou de l'analyste, mais s'avère celle de l'écrivain public d'autrefois, suppléant chez son client à un défaut scripturaire qui serait d'ordre purement matériel. Ainsi, chacun pense-t-il que sa vie appelle écriture ou que n'est pas vraiment une vie celle qui n'aboutit pas à un livre ? Je sais bien, disant cela, que je ne rends pas justice à d'autres voix et à d'autres discours et qu'il est facile de disqualifier la tendance que je viens de décrire. Il suffirait, par exemple, de considérer les lieux de vente privilégiés de plusieurs des livres auxquels j'ai fait allusion pour montrer qu'il s'agit d'une littérature banalement commerciale, étudiée pour plaire à un public désireux de versions étendues des articles de la presse People qu'ils consomment de pair. Le goût du scandale, l'exhibitionnisme sont des ressorts évidents des livres de Bechbédé ou de Justine Lévy, qui ne manquent pas d'exploiter le rôle public et l'irrésistible ascension de certains de leurs personnages. Ils ont peu en commun avec Proust, vous me l'accorderez. Mais ce mépris rapide ne rendrait pas compte du poids de l'injonction dans la réception même de leur œuvre, du poids de l'injonction dans les œuvres mêmes qui lui résistent, ni du fait que la pratique s'autorise de la légitimité de l'autofiction pour prétendre à un statut littéraire. L'influence de l'autofiction est telle aujourd'hui qu'on voit un auteur comme Éric Chevillard, qui n'y sacrifie pas dans ses œuvres romanesques, le faire néanmoins dans un blog ultimement voué à la publication traditionnelle sur papier et intitulé « L'autofictif ». Ce serait faire bon marché enfin d'une évidente remise en cause actuelle du roman. Pierre Michon, Pascal Quignard, Pierre Bergugnou, pour citer des écrivains dont les œuvres frappent par leur qualité et leurs ambitions proprement littéraires, cette fois, ne cessent de s'en écarter davantage. Et même l'abondant Richard Millet, après « La gloire des pitres »,« Ma vie parmi les ombres »,« Dévoration », je ne citerai que quelques titres, s'en détourne pour partie quand il sous-titre sa confession négative « Récit plutôt que roman », où s'adonne à la méditation personnelle dans l'Orient désert ou le tout récent « Brume de Cimérie », rompant avec la fiction et la narration et introduisant lui aussi en force le personnage de l'auteur et une trame explicitement biographique. Je crois qu'il convient d'admettre que l'écriture romanesque, si son histoire est celle d'un perpétuel réajustement, traverse une crise particulièrement forte, liée ou exprimée par le privilège donné à l'écriture de la vie. Car s'il n'est de roman lisible que pour son rapport à la vie, que fera-t-on de la pure fable ? Voir quel sort réservera-t-on à des œuvres qui se réfèrent à une vie qui ne nous parle plus ? Formeront-elles une littérature morte, comme il y a aujourd'hui, dit-on, des langues mortes ? Faut-il en reconnaître l'obsolescence, les confiner au musée de l'université, en délestant avec empressement, à l'image d'une malheureuse princesse de Clèves, les programmes scolaires affectés à la formation de la jeunesse qui a besoin de choses utiles ? Troquons-nous notre mémoire vive et notre patrimoine contre des panthéons et des tombeaux ? À quoi s'ajoute que l'hégémonie exercée par le roman confère une portée bien plus générale à ces aléas ? Éric Aorbar a soutenu dans sa Mimésis que l'histoire du roman était une perpétuelle confrontation dialogique entre idéalisme et réalisme, auquel on pourrait associer l'intention d'écrire la vie. Nous n'assisterions alors qu'à un épisode de ce duel. Cette proposition suppose, à l'échelle macroscopique, un éternel renouvellement peu satisfaisant pour l'esprit et faisant bon marché, peut-être, de la spécificité des formes et de leur signification dans l'histoire. Je ne pense pas non plus qu'il faille casser le problème en arguant d'une éternelle oscillation entre l'idée que la littérature parlerait d'elle-même et celle qu'elle parlerait du monde. La figure même de l'alternative, s'agissant d'ailleurs Bach ou de ce cliché, conduit à l'immobilisme. Le fait que le roman ait pour vocation d'écrire la vie est particulièrement saisissant pour l'historienne de la littérature que je suis, spécialiste de romans antiques et de XVIIe siècle. En effet, elle constitue, à considérer les origines du genre, un renversement absolu, et un renversement qui met en cause non seulement la situation du genre par rapport à la question de la représentation au mimésis, mais aussi la conception même de la création littéraire. Du reste, passer de la notion traditionnelle de la mimésis comme représentation du réel à celle très circonscrite d'écriture de la vie correspond à un double rétrécissement. L'écriture ainsi évoquée paraît se borner à être une transcription, une traduction plus qu'un acte complexe. Le privilège accordé à la vie est une autre restriction dans la manière dont il invite à favoriser le biographique et le naturel aux dépens de spéculations intellectuelles, artistiques, transcendantales, voire simplement dans la manière dont il occulte le dialogue à la mort, remisant un long colloque que l'art entretient avec celle-ci. Unique certitude, faut-il le rappeler, dont nous disposions tous véritablement. Nous allons mourir, nous mourrons chaque jour, nous sommes morts déjà, si j'ose plagier Bossuet, par ce caractère si éphémère de la vie. Le glissement d'une problématique de la mimésis à la vie devrait donc être en soi source d'interrogation. Je tenterai ici de proposer quelques réflexions qui mettent en cause d'ailleurs autant ma sensibilité critique propre que ma position face à la création littéraire à partir d'une réflexion historique sur le devenir du roman et de son écriture, tels que mes travaux de recherche, dont il constitue un champ majeur, me le font envisager. Le roman tel que nous le connaissons, à savoir un récit en prose racontant l'histoire de quelques protagonistes, est une invention de l'Antiquité grecque. Le premier roman que nous possédions dans sa totalité, le Kyrias et Kalliroé de Chariton d'Aphrodise, il date du 1er ou du 2e siècle après la naissance du Christ. Trois autres textes nous ont été transmis dans leur intégralité, le Kypé et Clitophon d'Achille Tatius, composé au 2e ou 3e siècle de l'ère chrétienne, le Daphnis et Chloé de Longus, les Éthiopiques d'Héliodore, constitués assez précisément vers 350 après Jésus-Christ. Encore Daphnis et Chloé, dont le titre authentique, la pastorale, renvoie au genre de la bucolique, se présente-t-il plus spécifiquement comme une variation narrative sur ce dernier genre, jante à la fois des codes du roman contemporain et de la veine poétique illustrée en particulier par Théocrite et Moskos. Bien d'autres romans ont circulé, qui ont été perdus ou qui ne nous demeurent seulement sous la forme de résumés dans la grande encyclopédie de la Souda ou la bibliothèque du patriarche Photius. Venu de l'Antiquité, le roman est néanmoins un genre tardif apparu à l'art chrétienne. Il ne figure pas dans la poétique d'Aristote et surtout sa situation historique l'amène à se construire en référence aux grands genres qui l'ont précédé, l'épopée, le théâtre, l'histoire. Sommairement, il raconte l'histoire de deux jeunes gens remplis d'amour, contraints de quitter leur cité natale pour errer sur le pourtour du bassin méditerranéen, affrontant mille dangers, emportés par mille péripéties, avant de se retrouver, de rentrer chez eux et de parvenir à se marier. Le temps de la narration épouse celui du retour, sur le modèle du Nostos homérique. Le caractère sentimental, voire bourgeois de l'intrigue, le nombre des péripéties et des coups de théâtre que le roman contient, renvoie au modèle de la nouvelle comédie, mais aussi de la tragédie euripidéenne. L'allusion à des événements réels, notamment militaires, l'ancrage historique du récit, fut-il en partie tissé d'anachronismes, l'exactitude des informations topographiques rapproche les textes de l'histoire. Les emprunts à Thucydide, Xénophon, Dion Cassius abondent. Les œuvres jouent en permanence de références, d'allusions, de détournements sur ces trois traditions. À des lecteurs dotés d'une solide culture classique, aptes à identifier citations et palimpsestes, je vous rappelle que savoir lire est un privilège pendant l'Antiquité, et que la manipulation de livres dépourvus d'une fonction immédiatement utile restreint encore le profil du public en cause. Les romans offrent des odyssées sentimentales et renversées, ironiques, puisque les époux ne sont plus que des amants qui tendent vers une réunion qui n'a pas encore été consommée et que les deux voyagent. Vous savez qu'Ulysse est déjà marié, qu'il voyage seul et que sa spécialité, si je puis dire, consiste dans ce que j'appellerais la halte amoureuse, le détour. Il rentre le plus lentement possible, bien sûr, comme tous les marines, direz-vous. Il ne saurait être compris, ces romans, non pas Ulysse, il ne saurait être compris sans faire la part du jeu, de reconnaissance intellectuelle qu'il suppose, identification d'une référence, déchiffrement de la variation dont elle a été l'objet, interprétation de celle-ci, qu'ils imposent. Ils renouvellent, subvertissent, raniment la tradition par ces réinscriptions. Le plaisir qu'ils procurent réside dans la perception d'un écart, dans un authentique voyage littéraire. L'apparente référentialité du genre est un trompe-l'œil. Rien de plus savant et de moins naïf que ce genre faussement simple, dont les scènes de genre et les naïvetés peuvent être comparées aux bergeries de l'âge baroque, je pense à l'Astrée, ou du XVIIIe siècle, rêverie stylisée d'un retour à une innocence et un archaïsme perdu. Non en dépit de son apparente simplicité, mais à cause de cette apparente simplicité, le roman antique est un divertissement raffiné pour les traits citadins. Sa naïveté est une feinte, un exotisme. Contre une approche purement ludique ou topique du genre, purement intertextuelle si vous voulez, Thomas Pavel a insisté sur le fait qu'il s'agissait aussi d'un roman de formation. Les protagonistes, en effet, y font l'épreuve de leur caractère et de leurs valeurs avant d'être réintégrés dans leur cité et d'en devenir des citoyens responsables. C'est assurément juste, mais le roman grec n'écrit pas pour autant la vie, et on peut douter, au vu de son goût pour le pastiche et l'ironie, qu'il soit pourvu de la moindre intention didactique. Il relève plutôt d'un projet aristotélicien où la mimésis est nécessairement empreinte d'une fonction morale. En fait, s'il est quelque chose qui doit arrêter le lecteur que les procédés de la fiction romanesque et sa production d'affectus intéressent, c'est la manière dont l'émotion surgit néanmoins à l'occasion d'un travail qui touche apparemment à la pure virtuosité. L'habileté technique et la variation semblent le moyen dont la pudeur s'autorise pour laisser advenir au long cours un discours sentimental nouveau en ce qu'il donne la parole à des jeunes gens vierges et purs, comblant probablement une appétence de cette société en plein renouvellement sous l'impulsion de la Pax Romana, de la montée de l'individualisme et du christianisme. Je conclurai ce premier tableau en disant que le premier roman n'écrit pas la vie. Il réécrit ses classiques. Il rêve un monde en marge de celui où ses lecteurs évoluent et qu'il inscrit en filigrane dans celui-ci. On voit ainsi que ses frontières coïncident étrangement avec celles du limès romain. C'est l'écart à la tradition, l'exercice littéraire de la Wariatio qu'il fonde. Or, ce roman est à l'origine du roman européen tel qu'il se déploie de la fin du XVIe siècle à nos jours. À partir de la traduction pionnière que Jacques Amyot propose des Éthiopiques en 1548, l'Europe tout entière se détourne du roman de chevalerie, concaténation d'épisodes autonomes reliés entre eux par la seule présence du protagoniste, pour produire un roman construit à la façon des Éthiopiques, à savoir comportant un début in medias res, stupéfiant, qui conditionne toute la narration à venir, qui rapporte l'aventure d'un seul couple, fût-ce au fur et à mesure qu'on avance dans le XVIIe siècle, en y insérant des histoires secondaires de plus en plus nombreuses. Ce récit, d'abord rétrospectif, est soutenu par la curiosité de comprendre la scène stupéfiante de l'ouverture, enchaîne ensuite son lecteur par le désir qui lui a inspiré de connaître la fin de l'histoire. Il s'agit, pour les hommes de la seconde moitié du XVIe siècle, s'agissant de fiction narrative, d'un procédé nouveau et révolutionnaire, la suspension d'intérêt, le suspense, qui rive le lecteur au texte, causant une relation de dépendance quasi narcotique selon ses détracteurs. Si le passage de l'imitation du roman grec s'accompagne d'une critique de l'invraisemblance des romans de chevalerie, pourvu de géants, où le merveilleux n'est pas absent, hein, les exploits, on massacre les soldats adversaires à la douzaine, et une critique de leur immoralité, les belles dames se donnant aux chevaliers dès lors qu'ils ont franchi le seuil de leur château, sa motivation essentielle est, on le voit, narratologique. Elle est aussi rhétorique. Jacques Amyot en a jeté les principes dans son proème dont il a fait précéder la traduction des Éthiopiques. Sous couvert d'une présentation du roman grec, il a en fait fourni le manifeste d'un nouveau roman, insistant particulièrement sur l'aptitude du genre à incarner le lieu d'une nouvelle éloquence française, d'une prose d'art national vouée à fédérer la plus vaste partie de la nation, comme elle s'adresse à un public mêlé, hommes et femmes, et en dehors de toute spécification professionnelle ou sociale, puisqu'il s'agit d'une éloquence de loisir. Certes, me direz-vous, elle s'adresse à ceux qui disposent de loisirs au XVIe siècle, mais il s'agit d'un loisir général et pas, par exemple, d'un divertissement court, à l'exemple du ballet. Amyot veut faire du roman le laboratoire d'un usage civil de la langue. Les connaissances que le genre peut dispenser par ses digressions et morceaux de bravoure constituent une addition à cette finalité première. L'évocation des Éthiopiques à laquelle Amyot s'emploie préfigure exactement, en fait, l'éloge de l'histoire qu'il fera quelques années plus tard dans ses préfaces aux vies et aux œuvres de Plutarque. Ce roman fortement aristotélicien, dans ses moyens et ses ambitions, ne correspond donc pas du tout à un renouvellement du roman de chevalerie fondé sur une simple réévaluation du vraisemblable à l'aune des critères de la fin du XVIe siècle. Il répond à une entreprise rhétorique et politique. Tout le roman baroque, hanté sur le modèle d'Héliodore, est à son tour une immense fête de la langue et de l'esprit, vouée à la discussion et l'examen d'une casuistique amoureuse dont l'émergence a été provoquée par l'influence conjuguée de la courtoisie et du néoplatonisme florentin, l'un et l'autre ébranlant, à partir du XVe siècle, la condamnation judéo-chrétienne de l'amour de la créature. À aucun moment ce roman n'écrit la vie, s'il en réfléchit les énigmes, s'il en soulève les incongruités et les apories. C'est une école du verbe et de l'intelligence du cœur. Furetière, dans le roman bourgeois en 1666, se moque des jeunes filles et des muguets maladroits qui tiennent l'astrée et les œuvres de Mademoiselle de Scudéry, parangon du genre, pour des bréviaires amoureux et les déforts afin d'y puiser recettes et modèles immédiats de comportement qu'ils n'ont pas vocation à fournir. Un tournant se produit à partir des années 60, 1660. Charles Sorel avait moqué les travers du genre, sa préciosité, ses complications excessives, son assèchement rhétorique par excès de codification, dès son Berger extravagant de 1627. Segret publie en 1657 des Nouvelles françaises, précédées d'une préface où il propose un modèle revu et corrigé de fiction narrative. Fustigeant les invraisemblances du grand roman, son artificialité, il appelle à la constitution d'un roman plus familier et vraisemblable. La production romanesque change de fait. Le dixième et dernier tome de Clélie date de 1660 et dès l'année suivante, Mademoiselle de Scudéry publie une nouvelle, Célinte. La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette, son premier texte imprimé, paraît en 1662. En 1678, la princesse de Clèves répond au programme qu'on vient d'évoquer. Mais ce serait de se méprendre que de considérer que le roman des années 60 adopte une quelconque posture réaliste où entend écrire la vie. Sorel observe dans sa bibliothèque française de 1664 « Beaucoup de gens se plaisent davantage au récit naturel des aventures modernes qu'on met dans les histoires qu'on fait passer pour vraies, non seulement pour vraisemblables. » S'il témoigne d'un procédé des auteurs qui consiste à prétendre que leurs récits sont vrais et pas seulement plus vraisemblables, il pose sans ambiguïté qu'il s'agit d'une technique, d'une illusion recherchée sans aucune naïveté et à de pures fins d'efficience. Les contemporains prétendent en effet transcrire le contenu d'un manuscrit trouvé, authentique, songeons aux lettres portugaises, rapportant une histoire vraie, ou entendent faire passer la narration romanesque pour des mémoires à l'instar de Madame de Lafayette, niant corrélativement dans sa correspondance que la princesse de Clèves est rien de grimpé, je cite, ou de romanesque. Il s'agit en fait non de modifier le statut de la parole romanesque, mais d'en renouveler l'efficacité. Les auteurs cessent d'en appeler à une lecture qui était fondamentalement distanciée et intellectuelle, établie sur le motif du débat contradictoire, en faveur d'un type d'approche ou d'illusion qui s'efforce de troubler absolument la distinction que le lecteur pourrait faire entre fiction et réalité. Il cherche désormais à provoquer en lui une entière suspension d'incrédulité qui joue au bénéfice de l'adhésion à la fiction. Si l'époque est celle de critiques religieuses violentes, songeons aux imaginaires de Nicole, c'est que le tournant des années 60 ne correspondant pas à une exigence accrue de vraisemblance ou de discours authentique, marqué au sceau du vrai, mais qu'il entend utiliser ce dernier au bénéfice de l'efficacité de la fiction elle-même. Elle devient en soi légitime, autonome, et elle s'affranchit de toute justification exogène. Un examen soutenu des textes montre par ailleurs qu'il ne manque pas de continuer à mettre en œuvre nombre des conventions du roman baroque. On sait que la polémique fit rage à la parution de La Princesse de Clèves. Ses détracteurs en dénoncent les invraisemblances. Une femme ira-t-elle dire à son mari qu'elle en aime un autre ? Les épisodes venus du roman baroque, comme les longs monologues introspectifs, les discussions sur le fait qu'un amant préfère-t-il que sa maîtresse paraisse au bal en son absence ou non, l'imbrication des récits secondaires. Mais certains traits empruntent aussi au conte, d'autres renvoient au genre de la vie de saint. La scène des flambeaux à Coulommiers est une madeleine à la manière de la tour. La mort de la princesse est évidemment celle d'une sainte, de même que la maladie qu'il a saisie peu auparavant est une allusion à la prière pour le bon usage des maladies de Pascal. Les spécialistes débattent infiniment pour savoir si le petit roman constitue un genre à part venu de la novella italienne, un épurement du roman baroque réduit à son cadre, ou au contraire un affranchissement de ses récits secondaires qui tendaient peu à peu à posséder la même longueur et les mêmes caractéristiques que le récit principal. La solution de continuité entre roman baroque et petit roman est extraordinairement ténue. Un seul point les oppose. Le roman baroque est une vaste féerie aristotélicienne destinée à éveiller chez son lecteur un sentiment d'émulation, tandis que le petit roman représente sur un mode concentré une nature humaine misérable et déchue selon une perspective le plus souvent strictement augustinienne. Je vous rappelle que ce sont les années où Pascal rédige l'apologie de la religion chrétienne qui deviendra les pensées et où La Rochefoucauld publie la première édition des Maximes en 1665. Le tournant des années 60 marque donc une conversion morale du genre romanesque. Il ne s'agit plus d'exciter au bien par la représentation de caractères nobles, mais d'instiller la méfiance dans le cœur vaniteux de l'homme en lui faisant un tableau circonstancié de ses noirceurs. Ainsi, les œuvres traitent-elles désormais systématiquement de femmes mariées adultères, d'histoires matinées tragiques, et s'achèvent-elles toutes sur une catastrophe ? La nouvelle ou le petit roman répondent au roman baroque, fût-ce en s'inscrivant à son encontre. Ils jouent cependant désormais de l'effroi et tiennent sur la vie un discours de dénonciation. Ce roman dévoile, refuse de cautionner la supercherie d'une vie dans le monde, mensongère et illusoire, ombre sinistre d'une vie loin de Dieu. Autonome, le roman classique ne rend pas compte du monde, mais centre sur une visée sémotique immanente. Lieu d'une sociabilité, il est lu en général à plusieurs et entre amis, à voix haute, le genre romanesque de l'époque moderne est une école morale, non en ce qu'il délivrerait un enseignement normatif, mais parce qu'il met en œuvre une réflexion sur les mœurs humaines. Il suppose une lecture où l'intelligence veille, qui repérera, comme pour le roman antique, leitmotiv, variation, détournement. Où une culture est sans cesse mobilisée, sauf à provoquer l'incompréhension et le malentendu, comme c'est tant le cas aujourd'hui à propos de ma pauvre princesse de Clèves. L'argument de la vraisemblance, de la régénérescence du genre, de la régénérescence du genre au moyen d'une vraisemblance plus grande et d'un rapprochement de la vie, est une fiction critique, un argument stratégique à l'instant de la conquête révolutionnaire de son indépendance. Dans la chambre du sublime, offerte en 1675 par Madame de Thianges au petit duc du Maine pour ses étrennes, Madame de Lafayette est la seule femme, avec la donatrice du jouet, à côtoyer Racine, La Rochefoucauld ou Bossuet. Si elle n'a pas encore publié La Princesse de Clèves, mais elle en a pris le privilège en 1671 sous le titre du Prince de Clèves, du reste, un cercle de privilégiés sait qu'elle est l'auteur de La Princesse de Montpensier et de Zaïde. Elle ne peut figurer dans le jouet princier qu'au titre de ses activités romanesques. C'est dire la reconnaissance acquise par le genre et la visée littéraire par le sublime qu'il revendique alors. J'essayais de ne pas m'étouffer quand même. La théorie de la création qui régit le roman, comme les autres genres des belles-lettres de l'Antiquité au romantisme, est celle de l'imitation, ou en grec « mimesis ». Il convient a priori de distinguer entre imitation de la nature et imitation de la tradition ou des anciens. Mais les deux tendent en pratique à converger, comme les anciens font figure de modèle. La façon dont ils ont imité la nature apparaît comme un canon, de sorte que l'imitation de la nature passe nécessairement par la reprise du patrimoine qu'ils ont transmis. La création ne saurait donc faire l'économie du passé et de la tradition. Elle se conçoit spontanément comme réécriture, recombinaison, réinterprétation, prolongement. Vous connaissez tous la formule du platonicien Bernard de Chartres, telle qu'elle est formulée au XIIe siècle par Jean de Salisbury, au livre 3 de son Métalogicon. Bernard de Chartres disait que nous sommes des nains assis sur les épaules des géants, afin de pouvoir voir plus loin qu'eux, non plus que cela nous soit permis de toute manière par l'acuité de notre vision ou par la hauteur de notre taille, mais parce que nous sommes soulevés et enlevés vers les hauteurs par la grandeur des géants. En un temps où l'origine incarne une pureté et une excellence dont l'histoire a fait déchoir, où le droit d'auteur n'existe pas, l'image a valeur de dogme. Elle implique que des querelles comme celle de Marie Darrieussecq avec Marine Diaille et Camille Laurence sont proprement impensables, car seule compte la valeur de l'œuvre située en aval, et cette valeur est son unique légitimité. Loin que les auteurs, qui publient d'ailleurs souvent de façon anonyme et travaillent à plusieurs, selon des modalités que nous peinons à nous représenter, éprouvent la tentation de la propriété et le sentiment de l'exclusivité d'un motif, d'un thème, d'une formule, pourvu que ceci soit retravaillé, bien sûr, chez leurs successeurs. On sait la part de l'emprunt aux dramaturges antiques chez Racine. Celui-ci, loin d'esquiver la confrontation, la pose, s'interroge dans la préface de 1670 de Britannicus « Que diraient Homère et Virgile s'ils lisaient ces vers ? Que dirait Sophocle s'il voyait représenter cette scène ?» Le temps et la mort sont annulés au profit d'un dialogue, d'un questionnement, dont la portée critique est redoutable pour l'écrivain qui vient en dernier, prise de tenaille entre ses maîtres et la postérité qui, à son tour, viendra le mettre lui-même à l'épreuve. En tout cas, la création passe alors évidemment pour une confrontation avec sa culture héritée. Aucun projet ne saurait faire l'économie de la tradition dans laquelle elle se situe, par rapport à laquelle elle doit élaborer une situation originale. Il n'existe en ce sens pas d'écriture naïve. Sous l'influence de l'apparition du droit d'auteur et à la suite de l'histoire, de la convulsion de l'histoire qu'a induit la Révolution française, le romantisme renverse cette vision millénaire. Rejetant l'hégémonie de la tradition gréco-latine, au bénéfice d'une histoire en mouvement et des tendances propres des littératures nationales, opposant aux règles la spontanéité, à la variatio l'originalité, il substitue à la théorie de l'imitation créatrice en vigueur depuis l'Antiquité l'idée d'une création ex nihilo, soit une parole originelle contre une poétique de la réécriture. On connaît le vers du voyage de Baudelaire invitant à descendre au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Le romantisme, dans sa quête de la spontanéité et de l'authenticité, entend accomplir un retour à la nature. C'est à l'imagination qui figure étymologiquement la capacité à figurer, à représenter, excitée par le sentiment de l'incomplétude du sujet et l'enthousiasme qui le saisit devant le monde, que revient désormais la responsabilité de l'innovation. L'auteur n'est plus un poète, un artisan, un faiseur, selon le sens premier du verbe poien en grec, qui veut dire faire, fabriquer, mais un mage, un prophète, un voyant. Il révèle l'insoupçonné, l'inconnu. La fable est dès lors le lieu d'un déchiffrement, d'une énonciation du monde. Sacrée, selon la formule de Paul Bénichou, évoquant le sacre de l'écrivain au XIXe siècle, l'écrivain devient aussi un personnage consacré, investi d'une mission thaumaturgique. Car beau et vrai coïncident, l'œuvre esthétique devient le lieu d'une révélation. Cette révolution de la théorie de la création a-t-elle causé une révolution de la pratique de l'écriture, qui se serait désormais appliquée à dire la nature ou la vie, comme l'âge classique ne l'envisage pas, dans une appréhension directe. Le roman change-t-il de modalité et de dessin à partir du romantisme ? La question est évidemment trop ambitieuse pour que je puisse faire autre chose que poser des jalons en espérant ne pas tomber dans la caricature. D'abord, si l'imitation des anciens n'est plus reconnue comme un principe fondamental de la création, elle perdure dans les faits. La nature est un thème entre tous sensible, vous l'avez compris. Dans la foulée du XVIIIe siècle, la littérature romantique, animée du désir d'un retour à la nature et aux choses, commence par renouveler le champ du roman en accordant une place nouvelle aux espaces naturels. Délaissant les topiques du locus amoenus, du locus horridus, de l'hortus conclusus, qui régissent la plupart des descriptions du roman antique et moderne, Rousseau, Senancour, Chateaubriand, paraissent bien s'engager dans une voie inédite. Mais ma collègue Emmanuelle Tabé montre, avec beaucoup de précision et de force convaincante, comment les natures américaines de Chateaubriand, qui paraissent constituer une innovation quand le traitement de la nature est maigre à l'époque classique et que le récit se fonde apparemment chez Chateaubriand sur la chose vue au cours du voyage américain de 1791-1792, s'avère en fait la réécriture géniale des paysages contenus dans les études sur la nature de Bernardin de Saint-Pierre. Non seulement l'accès à la nature est médiatisé, mais son évocation s'inscrit finalement dans la grande tradition de l'imitatio, bien que les sources en aient été revues. Sans plus parler de la nature, la vie de Rancé est à son tour un extraordinaire creuset de citations et de réécritures d'auteurs du XVIIe siècle, la part de Chateaubriand consistant en un réinvestissement sublime, voire génial, des sources qu'il transfigure. Le premier romantisme reste fidèle aux techniques de ses prédécesseurs. Et l'on pourrait retrouver cette part de l'imitation depuis Rousseau jusqu'à des textes récents. Il faudrait la plus accablante des naïvetés pour ne pas le voir sous-tendre les Géorgiques de Claude Simon, qui renvoient par leur titre même à Virgile, le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras, hanté sur une scène de bal fantasmatique, est une formidable reprise, une wariatio de la princesse de Clèves. Aujourd'hui, le corpus quignardien, dans son ensemble, est ruminatio obstiné des auteurs antiques, classiques, mais aussi asiatiques, avec cet élargissement autorisé par le romantisme. Ainsi, les latines tablettes de Buida Pronenia Avitia sont en réalité une ironique réécriture du journal japonais tel qu'il a été fixé, tel que les règles en ont été fixées par Sei Shonagon et Murasaki Shikibu. L'auteur, du reste, qui s'effarait dans un de ses petits traités de la posture de Racine face à Homère, Virgile et Sophocle, après une série de restrictions et de dénégations quant à la figure du lecteur qu'il se supposerait, déclare dans un article « Les morts, hélas, je vois un peu mieux. Parfois, ils me visitent. Parfois, je me dis « Qu'aurait pensé Spinoza ? Qu'aurait pensé tel stoïste ?» Il reprend presque mot pour mot l'interrogation de Racine que je vous ai citée. L'imitatio perdure donc. La notion d'une création absolue est une illusion pour profane ou petit maître, mais on voit aussi qu'elle apparaît désormais comme un procédé technique, intertextualité ou réécriture, non plus comme la clé de voûte de l'inspiration littéraire. Le romantisme rapporte cette clé de voûte à la confrontation au monde ou à la vérité, à une version revue de la mimésis. Le réalisme tel qu'il se structure dans le sillage du romantisme correspond à cette intention inédite dans ses fins et les moyens qu'elle se donne. On connaît la formule de Stendhal déclarant dans Le Rouge et le Noir qu'un roman est un miroir qu'on promène le long d'un chemin, ou l'épigraphe du livre 1, emprunté à Danton, une référence en soi symbolique, la vérité, l'âpre vérité. Le roman est réduit, semble-t-il, au rôle d'objet réfléchissant, destiné à figurer de façon neutre la réalité du monde, fût-elle laide. Dans cette perspective, ces sujets doivent provenir de la vie bien plutôt que de la fable, tandis que l'œuvre figure un simple support, un instrument. Balzac, quant à lui, entend faire concurrence à l'état civil, selon la formule bien connue qu'il emploie dans l'avant-propos de la Comédie humaine. Son œuvre devient un monde en soi, évoquant toutes les classes sociales, tous les genres de la narration, brassant 2472 personnages, tirés de personnages réels et qui reparaissent d'un roman à l'autre, unifiant cette production. Ils se fondent, ces romans, aussi sur des enquêtes de terrain. La Comédie humaine, vous le savez, répond à la Divine Comédie de Dante. L'auteur s'en explique dans la dédicace de la cousine bête au prince de Théano. Le poème de Dante était une exploration du monde céleste, du purgatoire au paradis. Balzac transpose le motif dans le monde terrestre des vivants. Symboliquement, il se défait du personnage de l'auteur, Virgile, qui guidait le poète florentin dans son cheminement. Il entend voyager seul, sans guide ni caution ancienne. Je pourrais citer aussi, mais je crois que j'ai peut-être essayé d'abréger un peu, le cas de Flaubert, hein, qui, là encore, envisage de devenir comme un dieu dans la création et va fonder un art nouveau du roman sur des enquêtes, sur un rapetissement du romanesque, voire sur l'éviction de ce romanesque. En réalité, ces auteurs eux-mêmes ont manifesté leur défiance envers le dogme d'une pure mimésiste, et y réduire les monuments qu'ils ont composés correspondrait à un non-sens. Stendhal apparaît souvent comme un maître du romanesque pour les scènes de bonheur qu'il introduit dans ses textes et leur absolue liberté. Balzac, quant à lui, s'emploie à la quête de l'absolu et conçoit ses textes, il emploie le terme, comme un poème. Quant à Flaubert, on sait le privilège qu'il accorde finalement à la beauté, la haine du réalisme qu'il n'hésite pas à affirmer, ou le fait qu'il est en permanence tiraillé par une tentation lyrique qui l'amène à composer Salammbô ou la tentation de Saint-Antoine entre Madame Bovary ou l'éducation sentimentale. Finalement, il déclarera d'ailleurs « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. Il aboutit au désir d'une écriture dont l'enjeu ne serait pas de restituer la réalité, mais de créer purement par soi et en soi. » On sera donc sensible à la manière dont ces auteurs entendent exprimer une quintessence du monde. La pure mimésie, c'est une illusion dont les grands réalistes n'ont pas la naïveté. Ils n'écrivent pas la vie. Se situant d'emblée dans une dimension sémiotique, ils écrivent des livres qui rendent compte de la réalité ou l'instituent. On connaît le mot de Maupassant, les réalistes de talent devraient plutôt s'appeler des illusionnistes. Ainsi, n'est-il guère surprenant que les réalistes aient été les auteurs dont la critique des années 60 se soit servie pour mettre en évidence l'absolue autoréférentialité de l'œuvre. Et on songe en particulier à l'analyse du baromètre dans le salon de Madame Aubin, qui avait fait la joie de mes années de Cagne, dans Un cœur simple de Flaubert. C'est un article de Barthes qui date de 1968. L'analyse aussi de La casquette de Charles dans Madame Bovary ou du bouquet de Madame de Mortsauf dans Le lys dans la vallée. Au bout du compte, le pouvoir mystérieux et démiurgique de l'écriture sort rehaussé de l'aventure romantique et réaliste, au point que leur postérité au XXe siècle s'engagera dans la voie du nouveau roman, qui tire acte de l'échec, c'est-à-dire le monde ou la vie, pour se focaliser sur l'aventure de l'écriture elle-même, déconstruisant les codes de la narration romanesque, exhibant ses conventions, refoulant personnages et intrigues. L'exercice de la langue et l'intention créatrice du verbe demeurent les seuls véritables héros de la geste romanesque. On est loin du règne de la vie et de la vérité en littérature, même si Serge Dubrovski pose les premiers éléments de l'autofiction, qui les réintroduit avec le personnage de l'auteur-narrateur dès 1977. Au terme de ce tableau trop rapide, il apparaît qu'en dépit des proclamations de rupture du romantisme, les modalités pratiques de l'écriture n'ont pas fondamentalement changé depuis l'Antiquité. La part de la confrontation à la tradition demeure essentielle dans le processus, mais celle-ci a la plupart du temps cessé d'être posée comme une motivation première de l'écriture. La question du réel, la quête du sens, une interrogation sur l'acte même en quoi consiste l'écriture, l'emporte sur la certitude que le dialogue avec les anciens et la littérature avaient pu inspirer. À cet égard, l'écrivain ou l'aspirant écrivain est sans doute davantage laissé à lui-même, à l'arbitraire de sa culture, de sa lucidité, de son talent de lecture. On peut redouter qu'en se détournant d'un si riche patrimoine, il ne s'engage dans des redites, fasse qu'on preuve de complaisance ou de naïveté qui sont au bout du compte autant de temps perdu et de dilapidation vaine. La vie n'est pas plus un gage de littérature que les bons sentiments hier. Le sentiment de l'œuvre, labeur et monument à édifier face à d'autres monuments, on pense à la cathédrale proustienne, est la seule constante qui se dégage du panorama que j'ai tracé. Héliodore, Balzac ou Claude Simon, chez qui la part de la mémoire et de la réitération tiennent un rôle si fort, s'emploient tous à dresser contre la labilité du monde des mâles que la langue et la culture partagée arracheraient au ressassement éphémère, inepte de la vie elle-même. Dans le discours qu'il prononce pour la réception de son prix Nobel en 1985, Claude Simon déclare, considérant la variété de ses expériences, qu'il ne peut finalement reprendre que la conclusion de Shakespeare. Si le monde signifie quelque chose, c'est qu'il ne signifie rien, sauf qu'il est. À l'œuvre d'être plus et mieux. L'écriture eut-elle une visée littéraire, repose sur ce postulat tacite. La conclusion, sans doute, prend un tour passablement désespéré comme on a vu que la position aristotélicienne posant d'emblée l'œuvre comme un artefact culturel a été mise à mal. En théorie, sinon en pratique, Platon reprend du terrain quand la littérature se fixe pour mission de saisir une vérité à elle extrinsèque. Bien qu'un Balzac ou un Flaubert aient clairement posé que la beauté ou la vérité à laquelle ils tendaient s'incarnait dans l'œuvre même et seule, l'idée tend à se diffuser que l'œuvre s'emploie à saisir une essence qu'elle n'est pas, et cela risque de la réduire, peu ou prou, au statut d'ombre fixant sur la paroi de la caverne la silhouette d'un objet dont elle se distingue. En tout état de cause, autarcique ou reflet, celle-ci entretient avec le monde un rapport plus difficile qui explique peut-être pour partie l'inflation dans le discours des écrivains des réflexions sur leur art, quand celles-ci sont absentes des correspondantes, par exemple, du XVIIe siècle, qu'elles n'inspirent alors ni essais ni déclarations tonitruantes. Aussi, isolées dans leur singularité, l'écriture, l'œuvre, quelles que soient leurs revendications, créations non naturelles, sont menacées d'être tenues pour des biens superflus ou contingents. Elles risquent d'être assimilées au divertissement, à l'ornement. Jacques Amyot a installé le roman dans l'espace de l'eutrapélie thomiste. Celle-ci pose le divertissement comme un envers nécessaire des affaires, le moyen d'un retour vivifié à ces dernières. Le romantisme a rompu ce lien. Loin d'écrire la vie, peut-être n'écrit-on véritablement plus que face à la vie, dans une confrontation aussi incessante qu'impossible à jamais résoudre. Une autre conséquence de l'évolution que j'ai essayé de dessiner me paraît être l'idée que la langue littéraire possède sa spécificité et son autonomie par rapport aux usages ordinaires du langage. C'est d'ailleurs ce que pose le titre d'un ouvrage récent de Gilles Philippe, « La langue littéraire, une histoire de la prose en France » de Gustave Flaubert à Claude Simon. Loin de moi l'idée de prétendre que le langage ordinaire performatif est la langue des livres et n'est jamais fait qu'un. Mais Jacques Amyot et les romanciers modernes considèrent que la langue qu'ils incarnent dans la cité y détient une fonction sociale ou politique. Elle est le lieu où se noue une conscience nationale. La prose d'art sert la cohésion du royaume. Avec l'autonomisation du fait littéraire qui suit le romantisme, en dépit de son intérêt pour la dimension nationale des littératures, cette vocation civique disparaît. La langue littéraire se cultive à part soi, se distingue, et si certains réalistes se sont prononcés pour la simplicité, à l'instar d'un Maupassant, Huysmans, Desprez, Reny s'engageront en revanche dans la voie d'une écriture artiste, soucieuse de mots rares, de néologismes, de termes techniques abscons, attachée à marquer avec éclat sa différence à la langue ordinaire. Le risque consenti de l'élitisme est louable. On connaît parallèlement la façon dont Stendhal entend s'adresser au « happy few », à une élite consciente de sa singularité. Le geste relève du désir de se distinguer de la masse et des mots d'ordre qui voudraient trouver leur légitimité dans le nombre. La culture partagée dans la crypte, le club, la société secrète, à l'exclusion de l'autre, conduit en revanche nécessairement à un isolement et une désolidarisation qui se risque de se retourner en rejet de ce qui entendait soi-même rejeter. Faut-il s'en réjouir, voir dans une situation périlleuse de la littérature la manifestation d'un ostracisme fécond, invitant à toujours plus de solitude et de fermeté. Au-delà des réticences que ma sensibilité d'antiquisante et de dix-septiémiste m'inspire à l'égard de cette proposition, il me semble que la façon dont l'enchantement que la langue suscite, le style, pour employer ce mot si complexe, apparaissent aujourd'hui pour tant de personnes qui lisent néanmoins comme un effet superficiel, voire nocif d'un texte, affecte le statut même de la littérature. On parle aujourd'hui de belle écriture comme on loue la qualité calligraphique d'une copie à l'école primaire. La longueur ou le caractère littéraire des livres effraie. Il serait naïf et réducteur de mettre en cause une seule dégradation de l'enseignement ou la conséquence de sa massification absolue, de dénoncer l'accès à la lecture et à une forme de critique littéraire, de lecteurs démunis de la culture et des outils conceptuels adéquats. Deux de mes arrière-grand-mères, dénuées de toute éducation littéraire, qui avaient dû cesser d'aller à l'école à 12 ou 13 ans, et qui n'imaginèrent jamais que le bébé de sexe féminin qu'elle tint dans les bras put un jour parler d'elle dans ce lieu, dévoraient Balzac, Proust, Thomas Mann et Victor Hugo, dont j'ai conservé les volumes qu'elles avaient entre les mains. Il me semble que par-delà les conditions sociales de la lecture, c'est la vision de la littérature même et de ses ambitions qui est en jeu dans cet amenuisement de son aire de recevabilité. En rompant avec l'idée que les belles lettres étaient aussi des bonae litterae, dotées d'une valeur éthique, quoique indépendante de tout moralisme imbécile, la littérature risque d'avoir sapé une part de sa propre légitimité. S'isolant, manquant de cette générosité que le XVIIe siècle prisait, car elle est une abondance de cœur, doutant de tout partage ou transmission, elle se voue au ghetto. On se demande s'il ne convient pas plutôt de s'abandonner à la fascination que la sirène quignardienne exerce, qui invite à plonger dans les flots obscurs, qui expose à la folie et à la mort, mais qui conduit aussi à l'élan, au saut, à la rupture, au mouvement. Peut-être faut-il méditer aujourd'hui sur l'impératif baudelairien qui clôt le voyage. Levons l'ancre, appareillons. À défaut de la vie, la profondeur. Si la littérature n'a pas écrit la vie au sens de la plaque photographique qui fixe une image, elle lui a ouvert souvent des voies. Artaban, Céladon, Werther ont inauguré des types. Leurs noms sont devenus des noms communs. Bien davantage, le roman classique auquel j'ai fait allusion a ouvert le débat sur l'amour de la créature proscrit par l'orthodoxie judéo-chrétienne qui veut que l'amour, l'amour-passion, n'existe que pour Dieu. On sait que la Vulgate réserve le terme de dilectio pour évoquer le rapport entre l'homme et la femme. C'est dans les lettres portugaises, c'est dans la princesse de Clèves que la notion théologique de l'amour pur a été appliquée pour la première fois à l'amour de la créature, que l'hypothèse ou la tentation en quoi il consistait est devenue rêverie sensible, mirage, au point qu'on ne soit plus capable aujourd'hui de comprendre que l'héroïne de Madame de Lafayette, au terme du livre, se reprenne et se donne, mais à Dieu. J'ai longuement insisté sur la part de ce que les uns nommeront tradition, les autres intertextualité. Mais nous avons tous fait l'expérience de ces instants de lecture où se produit comme une déflagration, où le texte illumine ou révèle l'existence, de la même façon que nous avons parfois le sentiment que le présent s'ouvre et que nous rencontrons une scène déjà mystérieusement vécue qui nous tourmentait souterrainement et trouve soudain sa place et sa nécessité en nous. Comment expliquer cette reconnaissance de l'œuvre par la vie, sinon en considérant que nous sommes loin de ne constituer que de la matière ou du donné biologiquement vivant ? Nous sommes tout autant tissés d'une histoire culturelle, sensible, mentale, et l'œuvre qui appréhende cette dimension est bien apte à nous émouvoir viscéralement, charnellement, à fixer de la vie ce qui se situe dans ses limbes ou au-devant d'elle. Si le règne actuel des neurosciences tend à donner plus de poids au corps qu'à l'esprit, l'école psychiatrique française nous a pourtant appris que notre chair même, qui ne souffre pas en 2010 comme en 1662 ou en 1920, n'est pas qu'un ensemble d'organes, de ligaments et d'épidermes. Nous sommes esprit comme nous sommes corps, vie autant que mort. L'écriture écrit la vie dans le mystère d'une confrontation à l'esprit et à la culture, me semble-t-il, par une opération qui pose qu'on renonce à soi à l'instant d'un accroissement de soi qui dépasse le sujet qui en est le réceptacle temporaire, le simple véhicule. Il n'y a pas de vie pure, quoiqu'un discours de retour à la nature veuille nous le faire accroire. Je ne dirais pas, comme Mallarmé, que tout au monde existe pour aboutir à un livre, tant de téléologie me paraît incertaine. L'écriture n'est pas dans la vie ou dans la mort ou dans le patrimoine des anciens. Elle est dans le risque consenti de l'étrangeté à soi, de l'écart, de la transfiguration, dans celui de l'échec, dans le pari nu, entier, sans retour, par quoi pourtant on consente à cet échec. Pour conclure, l'écrivain des XVIe et XVIIe siècles se munissait de polyanthéa, de florilèges, répertoire de citations et de topoi qui devaient le guider dans le déchiffrement du monde. L'écrivain contemporain transporte plus souvent avec lui un carnet où noter autant de choses vues qui lui paraîtront appelées commentaires ou récits. Le glissement d'un objet à l'autre implique-t-il un changement de dessin ou une révolution ? L'un comme l'autre envisage un même mystère dont la réduction passe par une quête faite de mots, si ce mystère n'est pas l'adjonction nécessaire de mots elle-même que le monde requiert pour être à l'homme. C'est l'opération de la translation qui fait sens. Je citerai volontiers le mot d'entrée Pierre de Mangarde, posant dans son autoportrait qu'à l'origine figure toujours la vieille magie panique. Écrire la vie n'est qu'un mot d'ordre creux ou une invocation comme une autre, une fiction pour appréhender l'inconnu, ce qui se dérobe et s'écroule dans un acte qui ne relèvera jamais que du geste. Pierre de Mangarde observe encore « J'ai toujours cherché à écrire comme un obsédé, à n'écrire qu'en état d'obsession. » L'écriture relève du siège, de l'état de siège et de la bataille. C'est dans la guerre et l'angoisse, voire l'agonie, par la voie étroite qu'elle atteint à l'énergie. Une réflexion historique, en même temps qu'elle dépouille les chimères d'un transformisme de mauvais aloi, nous déleste, je crois, de la naïveté du contemporain. Elle permet de rappeler quelques fondamentaux. Ce faisant, après avoir confessé en ouverture mon goût du silence et du retirement, mon éloignement pour le débat, il m'est difficile de conclure autrement qu'en posant que dans une crise qui met en cause la part même de la culture en nous et dans l'écriture, rien n'est peut-être moins approprié que la quête de ce repos in angulo cum libro qui fit la joie de Thomas à Kempis et qui fait encore celle de Pascal Quignard, mais qui, dans un monde en proie au bruit et à la fureur, au chaos de la matière, dans lequel la musique des sphères ou de la princesse des clèves n'appelle que le rire gras des habiles, menace peut-être le livre d'aphasie. Je vous remercie.